Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal, Framasoft, un an de coin-coin. Avec G qui est resté avec nous donc, et qui a enfilé sa casquette de membre de Framasoft, et Pouyou, co-directeur de l'association. Nous allons discuter avec eux de leur bilan et des perspectives un an après le début de leur campagne Collectivisons Internet, Convivialisons Internet ou Coin-Coin. Je précise que Pouyou, qui suit de beaucoup plus près cette campagne, interviendra principalement, mais que G n'hésitera pas à partager son point de vue, soyez rassurés. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Donc Pouyou, G, je vous propose de commencer par la base. Est-ce que vous pourrez chacun vous présenter de manière assez sommaire et en profiter pour présenter peut-être Framasoft en quelques mots?
Ok. Moi je suis Pouyou, je suis pas du tout développeur ou informaticien à la base. Moi je suis arrivé dans le libre en écrivant des romans, pièces d'être des romans que j'ai mis sous licence libre pour les partager librement. Et du coup ces romans ont été édités par une maison d'édition qui s'appelle Framabook, et puis c'était l'association Framasoft, et c'est comme ça que je suis rentré dans cette association et quelques années maintenant, et aujourd'hui donc je suis co-directeur de l'association Framasoft. Et Framasoft, en fait, le principe, c'est, alors je peux te faire le truc, association d'éducation populaire aux enjeux du numérique et des communs culturels, très bien, mais le principe, c'est de se faire un peu une espèce de chaînon manquant entre ce monde parfois très spécialisé du numérique libre et les gens, quelque forme que puissent prendre les gens, parce que les gens n'existent pas, c'est des humains et on est tous et toutes très différents. Et donc de donner des trucs très concrets, des outils très très concrets pour améliorer les libertés numériques dans sa vie. Voilà, et ça peut être une fois un MOOC, ça peut être une fois développer un logiciel alternatif et une autre fois mettre sur des serveurs un outil en ligne pour que tu puisses remplacer Google Doc ou Google Forms.
Tu peux peut-être nous préciser pour les personnes qui ne connaissent pas ce qu'est un MOOC ?
Un MOOC, oui, pardon, c'est un cours massivement ouvert et en ligne. On vient d'en sortir un ce matin, sur le milieu associatif et comment leur proposer des outils pour se libérer. Et donc là, l'idée, c'est que d'ores et déjà, tu peux aller. On a aussi une première partie, un premier module de ce MOOC qui était Internet, pourquoi et comment reprendre le contrôle. Et tu peux aller suivre ce cours et te former sur toutes ces questions-là. C'est un cours en ligne.
J'ajouterai le lien et je le rappelle bien sûr, toutes les références qui nous seront citées seront sur la page de l'émission, je rajouterai ce lien-là. G ?
Alors moi c'est rigolo parce que moi pour le coup je viens bien du milieu de l'informatique, j'ai fait des études, j'ai une thèse de géométrie algorithmique, un truc un peu voilà quoi. Mais pourtant je suis rentré à Framasoft un peu comme Pouyou pour le côté artistique parce que je faisais des petites BD sur internet, un truc qui s'appelait le Geekctionnaire à l'époque. Et j'avais été invité à en poster sur le Framablog, donc le blog de Framasoft. Et ça fait un petit moment maintenant, c'était même juste avant que Pouyou n'arrive, je crois qu'on arrivait à quelques... C'était en 2011, je crois.
Ouais, moi, ça a dû être en 2012.
Ouais, c'est ça. Et je suis resté, j'ai fait pas mal de postes différents, j'ai été secrétaire, j'ai même été coprésident à un moment, mais bon, ça je l'assume moins. Et donc ça, pour moi, c'est une des spécificités effectivement de Framasoft, c'est déjà quand tu vois qu'on est arrivé... par la BD, par le roman, c'est un truc qui peut surprendre. Enfin, je veux dire, je pense que c'est, il y a pas énormément d'assos qui sont dans le milieu numérique, logiciel libre, où tu peux y arriver par ce biais, en fait. En général, c'est pas une tare, hein, mais en général, tu y arrives parce que t'es un petit geek, une petite geek qui aime bien développer, qui aime bien les ordi, enfin, t'aimes les ordinateurs, Windows 98, enfin non, du coup pas Windows 98. Mais... Et voilà, donc c'est effectivement, je pense que l'asso a d'ailleurs plutôt évolué en poussant encore plus dans ce sens. Je pense que ça ne l'était il y a 10 ans, du coup. Mmh. On y est restés tous les deux et on y est bien.
Ouais, Framasoft a 20 ans quand même bientôt. Hein. Ouais.
Je précise d'ailleurs que Pouyou, tu es salarié, oui, de l'association, et toi, G, tu en es un membre bénévole.
C'est ça.
Alors, on a à peine commencé, mais j'ai immédiatement envie d'ouvrir une parenthèse avec vous, même si je pense que ça laisse complètement lié à notre sujet, qui est Framasoft, donc, puisque ça concerne nos valeurs, plutôt notre éthique partagée. Mm-hmm. Parce qu'en préparant cette émission, je t'ai signalé, Pouyou, parce que c'est nous qui avions échangé directement, comme c'est notre habitude à chaque émission, notre attachement à la question de la représentativité, de la diversité de genre, de la parité. Mm-hmm. Plus précisément, comme on demande à chaque structure, dans la mesure du possible, de privilégier la participation d'une femme. Mm-hmm. D'ailleurs, une parenthèse dans la parenthèse, on a fait une conférence à ce sujet lors du salon Open Source Experience, et les diapos et références sont à retrouver sur notre site. Bref, voilà, donc vous avez parfaitement accueilli cette demande. Hein. Bon, pour des raisons de disponibilité, c'est donc Pouyou et Eji qui représentent aujourd'hui Framasoft.
Donc, oui, c'était surtout Pouyou à la base. Il se trouve que moi, je faisais ma chronique avant, voilà. Donc on s'est dit autant que je sois là, mais de base, j'étais pas spécialement prévu. Hein, donc
Et oui, tout à fait. Merci de le préciser. Donc, j'ai posé cette question parce que, quand on a signalé notre attachement à la diversité, Pouyou, alors, en plus d'accepter et de le comprendre, tu as partagé avec nous tes réflexions à ce sujet. Et je trouve intéressant de profiter de ce temps d'échange entre donc deux structures qui partagent une éthique commune sur les libertés informatiques pour mettre en lumière aussi, voilà, ces réflexions communes dans nos pratiques.
C'est vrai que c'est rare de pouvoir parler de ces questions-là qui ne sont pas le cœur de notre militance, mais qui pourtant nous tiennent à cœur. On est d'accord sur l'importance de la représentativité, de la représentation et de l'inclusivité, mais du coup, comment faire être à la hauteur du sujet et comment être à la hauteur du sujet en sortant de la bête comptabilité, voilà, combien il y a de vagins, combien il y a de pénis, tu vois, parce que de toute façon on regarde pas dans la culotte des gens qui viennent à la radio, donc voilà.
Est-ce que c'est ça qui distingue un homme et une femme?
Et bien sûr le sexe, le genre et tout ça, et je trouve ça très important. Moi j'ai des collègues identifiés socialement comme femmes qui me disent j'en ai un peu marre de me demander à chaque fois qu'on m'invite, est-ce qu'on m'invite parce que je suis perçu comme une femme ou est-ce qu'on m'invite parce que j'ai une expertise, parce que je bosse, parce que je fais des trucs bien, tu vois. Et de même, d'autres qui vont me dire, bah ouais, mais du coup, tout le temps qu'on va passer à faire du tutoring d'autres femmes, à faire de la représentation, etc., on le passe pas à bosser, à faire avancer notre expertise, notre carrière, et donc c'est une double charge. Donc il y a déjà cette première partie là, et puis la question homme-femme, elle est intéressante, mais elle continue de souscrire à la question de la binarité. Moi personnellement, je suis en train de ne plus du tout me définir comme homme cis, ça ne me va plus du tout cette définition. Et du coup, il faudrait inviter plus plutôt des femmes que des hommes et tout ça. Ok, et je suis où moi là-dedans, tu vois? Et bien sûr, tout ça n'est pas un reproche, mais c'est il y a tellement de questions de comment le faire bien. Parce que c'est important de le faire, c'est même pas à remettre en question ça. Mais comment faire les choses bien en sortant du bête prétexte de je compte etc. Et enfin voilà, et on fait des tokens et c'est nul. Donc voilà.
Voilà, token et jeton de présence en gros. Ouais. Pour participer, on le sortir de ces. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça très intéressant quand tu l'as soulevé, parce qu'en fait, de fait. Alors moi, je pense que c'est ton propos aussi d'ailleurs, semble-t-il, hein, que ça reste pertinent et nécessaire de mener cette action pour ne serait-ce que d'avoir à peu près de la parité. Mm-hmm. Mais forcément, de fait, on s'appuie sur en fait des stéréotypes de genre, c'est-à-dire que sur la nature de la voix, sur le patronyme, sur parce que là on est à la radio, mais sur les certaines caractéristiques physiques.
Ouais.
Et voilà. Mais
je pense qu'on appelle l'expression de genre, l'expression qui est différente encore du genre et qui est différente du sexe. Et tout ça, je trouvais extrêmement intéressant à travers. Parce que en plus on hérite d'une culture patriarcale qui est installée, et on est dans un milieu où le patriarcat ayant fait son effet, il y a statistiquement moins de personnes s'identifiant comme femmes. Donc ça veut dire que si on veut réussir une parité, il va falloir et leur imposer du 50-50, il va falloir qu'elles bossent plus dans la représentation. Tu vois, et donc à un moment donné, tout ça, c'est parce qu'on est dans une période de transition et qu'on essaie de faire avancer les choses pour qu'on soit plus demain et après-demain dans un milieu où il y ait une surreprésentation des personnes identifiées comme hommes et une sous-représentation des personnes identifiées comme femmes. Mais dans cette période de transition, comment est-ce qu'on fait pour ne pas créer des problèmes en voulant en résoudre d'autres?
D'où la nécessité aussi d'en discuter ouvertement, voilà.
Et j'ai pas de réponse, par contre, plein de questions, et parlons-en.
En fait, la réponse vient, je pense, de ces échanges. Gis, tu voulais revenir sur ce sujet ou on ferme la parenthèse?
Non, je pense que je peux fermer la parenthèse, je suis pas sûr d'avoir quelque chose de plus intéressant à dire que ce que Pouyou vient de faire. Donc.
Oui, c'était très bon, bref. Fermons cette parenthèse, revenons à nos moutons, enfin plutôt à nos canards, puisque comme je disais, ça fait un an que Framasoft fait coin-coin. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Framasoft s'est lancé dans l'élevage aviaire? Je précise qu'il y a un an, vous avez reçu tous les deux d'ailleurs, le 6 décembre 2022, dans le Libre à vous 161, si vous voulez retrouver la référence, pour justement parler de cette campagne. Donc ça fait un an.
L'idée, collectivisons Internet, convivialisons Internet. Du coup, ça semble hyper sérieux comme ça. Donc on dit coin-coin au passage parce que ça nous fait marrer qu'on peut faire des blagues.
C'est super long à dire. Hein. Même Étienne, il a galéré tout à l'heure. Coin-coin, c'est quand même mieux. Quoi. Ça,
on est d'accord. Mais l'idée, c'est de se dire, OK, Il y a un coup à jouer, c'est que il y a eu pas mal de travail dans le milieu du logiciel libre, et Framasoft ayant fait sa part, pour essayer de convaincre des plus grosses structures, des assez grosses structures, et de faire en sorte que les communautés s'émancipent et fassent des transitions vers du numérique éthique. Il y a eu un travail aussi vers les individus, mais du coup, il y a une espèce de public entre les deux, des petits collectifs, pour qui, finalement, il y a très peu de possibilités d'offres. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Et donc, la plupart des projets qu'on porte au sein de cette campagne et qui s'ajoutent à tout ce que continue de faire Framasoft, parce qu'on va pas s'arrêter pour autant, mais la plupart de ces nouveaux projets de cette feuille de route, c'est vraiment de se dire, on va essayer de compter sur ces petits collectifs, parce qu'en plus, au sein de ces petits collectifs, il y a une vraie capacité à s'entraider et du coup à se former. Et si, à un moment donné, il y a une volonté de se dire, on va avoir des outils numériques à la hauteur de nos valeurs et qui correspondent vraiment à nos valeurs et pas à celles de Google et Microsoft, y a un moyen qu'il y ait de l'entraide et que ces personnes-là se forment entre elles si on leur donne des outils et des clés. Et donc voilà, c'est ça à peu près le principe de base.
Tiens, je vais en profiter pour dire, parce que là, on va échanger, on va rentrer dans les détails. Framasoft a fait un gros travail d'explication sur le Framablog. Il y a déjà un premier billet qui a été publié début novembre de mémoire, qui précise un petit peu cette feuille de route et qui évoque ses bilans et ses perspectives. Et puis pour chaque, alors ça, il y en a plusieurs articles tout au long de ces deux mois, enfin de novembre, décembre, sur les différents projets. On va rentrer dans certains détails, en particulier sur Peertube. Donc si vous voulez creuser et relire ça à tête reposée, je vous invite vraiment à aller lire sur Framablog, c'est très, très agréable à lire et très joliment illustré, parce que là on va profiter, est-ce qu'on peut dire quand même un mot sur l'esthétique magnifique autour de cette campagne avec les illustrations réalisées par David Revois.
Tout à fait, c'est un boulot de dingue fait par David sur cette campagne, et du coup sur le site soutenir.framasoft.org où vous avez accès à toutes les thématiques et à tous les articles, etc. Et enfin voilà, ça fait maintenant depuis 2017 qu'on bosse avec lui, c'est un bonheur de bosser avec lui. Et du coup, toute l'idée, c'est de montrer à la fois le combat parfaitement inégal de petites assos et de petites communautés du libre face aux plus grandes puissances économiques, culturelles et politiques aujourd'hui. Les géants du web, c'est à peu près ça. Et donc, de montrer ce combat inégal et de montrer qu'on va quand même le faire et de montrer que c'est pas pour faire mal ou pour dominer ou pour machin, mais juste pour regagner l'espace, pour repousser l'espace. Et David a mis ça parfaitement en illustration. Vraiment, je vous invite à aller sur Soutenir pour voir ces petites mascottes, les monstres représentant les GAFAM, enfin, les géants du web qui représentent très très bien leur manière de nous attaquer, nous, citoyennes et citoyens. Vraiment, c'est magique. J'adore bosser avec cette personne.
Oui, il y a un truc que j'aime beaucoup aussi avec cette esthétique, c'est que ça rejoint ce que je disais dans ma chronique sur le fait qu'on essaye de faire des bilans assez positifs, par exemple. C'est qu'on, quand on lutte comme ça pour des causes, comme que ce soit les libertés informatiques, ça pourrait être d'autres choses, le féminisme, l'antiracisme, on lutte contre des trucs qui sont quand même pas jojo. Contre un monde qui est quand même assez pourri, et souvent c'est des choses qui t'atteignent en fait d'une manière ou d'une autre. Enfin, je veux dire, c'est éprouvant de lutter contre des trucs assez violents et assez forts. C'est-à-dire que quand t'as une grosse machine, la grosse machine des GAFAM par exemple en face de toi, qui est toute puissante, enfin que t'es tout petit. Et en fait, d'avoir cet imaginaire extrêmement positif, mais qui est même, j'irais pas jusqu'à dire que c'est que les GAFAM sont mignons, mais je veux dire, les monstres que nous a fait David, c'est une manière de les voir où on peut s'en moquer et en être un peu, se sentir un peu moins, c'est moins anxiogène, on va dire, quoi. Il y a vraiment un côté, on va y aller en mode, nous on est, ok, c'est très manichéen, nous on est les gentils, eux c'est les méchants, mais on va le faire d'une manière très, je trouve pas mes mots, mais optimiste, je sais pas.
Remettre de la joie dans la lutte.
Ouais, c'est ça.
Totalement.
Et la conquête des imaginaires, on sait comme elle est importante. Et d'ailleurs, ils ont très bien compris aussi en face l'importance de créer un imaginaire où l'informatique c'est Google, où l'informatique c'est Microsoft, et c'est ça aussi qu'il faut déconstruire.
Et proposer une autre esthétique, parce que finalement, on n'a pas les mêmes valeurs, tu vois. Et si on faisait une esthétique à la Apple, lisse, épurée, avec de la photo, du machin, etc., bah, ça parle à une certaine communauté. Je vais prendre mon mon clicheton du cadre sup avec son SUV et son abonnement à Canal. Maintenant, c'est vrai, non, c'est plus Canal. Et ses multiples abonnements à OnlyFans, tu vois. Et c'est cool, mais c'est pas les personnes à qui s'adresse en premier. Là, nous, on s'adresse à des personnes qui, justement, cherchent une certaine éthique, une certaine valeur dans leur pratique et dans leur pratique numérique. Et donc, eh ben, finalement, quel est cet imaginaire de ces personnes? Quel est le visuel qu'on peut proposer à ces personnes pour leur dire c'est plus à toi, c'est plus ton monde à toi que le monde qu'on voit déjà partout dès qu'on ouvre un média de Bolloré.
Et puis, je pense que c'est aussi important le côté fun, quoi. C'est-à-dire que là, vraiment, ils sont mis... la barre de dons, en gros, c'est des personnages choupis de notre côté qui poussent contre un mur et où il y a les monstres des GAFAM derrière qui essayent de retenir, quoi. Et je me souviens, c'était même une discussion qu'on avait eue. Alors, il y a quelques années, c'était avant que David fasse ce truc, il y avait eu... c'était la campagne des Googlisons Internet avec une parodie de la carte d'Astérix qui était faite par un autre dessinateur talentueux dont le nom m'échappe aujourd'hui.
Guy, peut-être.
Enfin, bref. Et je me souviens qu'à l'époque, donc c'était moi qui avais fait cette carte à l'époque, on avait eu pas mal de discussions sur comment on met en forme ce truc, ce dégooglisant internet, le côté on résiste aux GAFAM, tout ça. Et on avait eu deux idées, je me souviens. Il y avait cette idée sur laquelle on est parti, donc de faire cette parodie d'Astérix. Et il y avait une autre idée, quelque part, qui était assez évidente aussi, finalement. C'était le côté résistance contre les nazis, par exemple. Tu vois, la résistance contre l'envahisseur. Et en fait, on s'était dit que c'était pas un bon plan parce que ça marchait très bien, hein, parce que tu peux voir les GAFAM comme une entité totalitaire, tout ce que tu veux, tu peux...
Bon, colonisante.
Même si on met de côté le point Godwin, hein, allons-y, ouais. Juste autre chose, tu vois. Mais ce qui était bien avec Astérix, c'était le côté ridiculisant, en fait. C'est-à-dire que les méchants romains, et là c'est pareil, je pense, pour les monstres, c'est des méchants, ils sont clairement identifiés comme tels, mais ça fait référence à des trucs rigolos. Le méchant romain, tu lui mets un pain dans son menton, il gicle à 200 mètres et tu rigoles. Faire ça avec des résistants et des nazis, c'est moins fun, quoi. C'est, même si l'image était bien aussi, quoi. Donc voilà, et je trouve que voilà ce que David a fait sur ce truc-là, bah ouais, on reste toujours dans ce truc, dans cet effet où bah ouais, ramener du fun et de la joie dans la lutte, quoi. Enfin.
Et toujours dans le langage graphique, il y a quand même un truc aussi de, à chaque fois, on se pose la question avec David, comment représenter les outils, les valeurs, les choses comme ça numériques, sans mettre un clavier, un écran, du verre Matrix et du terminal noir. C'est pas qu'on n'aime pas cette esthétique. Enfin, moi, je la vis quand même tous les jours, il n'y a pas de problème. C'est que ce serait bien de sortir de ça, tu vois, et de sortir de cette bulle-là.
Ça fait écho à cette idée qu'on peut défendre, qui est que le logiciel libre n'est pas juste un combat d'informaticiens et d'informaticiennes, il concerne tout le monde. Et voilà, comment on fait collectivité, comment nous collectivisons et comment convivialiser Internet. Ce que je trouve très intéressant, et je trouve que ça fait écho à ce que vous dites, c'est que souvent quand on lit Framasoft et vos actions, cette idée de remettre l'humain au centre, et je trouve que ça, c'est extrêmement important. Finalement, on sait pourquoi on fait les choses. Ouais. Peut-être juste mentionner, finalement, Dégooglisons, c'est donc la campagne d'avant. Je pense que Coin-Coin, finalement, est la continuité. C'est-à-dire que, je pense que c'est important de leur dire, Framasoft, vous avez lancé quelque chose, vous avez commencé à proposer des outils alternatifs à ceux des GAFAM. Mais votre propos, et tu pourras justement le définir, c'était que vous ne vouliez pas devenir... on a des kilomètres et des kilomètres d'avoir un nouveau Google en ce qu'est Framasoft, mais vous vouliez pas être un nouveau nœud finalement sur le réseau. Et en fait, ce qu'on défend, c'est des systèmes accentrés, de systèmes collectifs, justement.
Tout à fait. Le principe, vraiment, c'est de dire comment est-ce qu'on abaisse la marche d'entrée, qu'on ouvre un peu plus grand la porte à plus de monde. En 2014, on disait, mais tu veux une alternative à Google Doc, mais il n'y a pas de souci. Tu loues ton serveur, tu prends ton nom de domaine, tu fais sudo apt-get install etherpad. Et là, j'ai perdu 99,99999% des gens, dont moi, j'ai dû l'apprendre par cœur, cette phrase. Tu crois, enfin, je comprends rien à ce que je dis. C'est plus vrai, mais bon, je vais faire semblant pour ça, on est à la radio. Et donc voilà, tout ça pour dire que... l'idée, c'était de dire, bah, écoutez, on va le mettre en place. Ah, mais il y a plein de monde qui viennent chez nous. Mais en fait, vous n'êtes pas obligé de venir chez nous. C'est la première étape, c'est de commencer, de voir si ça vous va, si ça vous va pas. Et c'est OK que l'outil ne corresponde pas à vos besoins encore et que vous puissiez pas encore vous libérer. C'est hyper OK. Mais c'est une porte d'entrée Et une fois que vous êtes là, bah, vous pouvez continuer à avancer et aller chez d'autres, ou vous auto-héberger, ou mettre en commun les besoins et créer un hébergement pour votre communauté, etc. Donc, à chaque fois, de toute façon, ce qu'on propose vraiment, c'est essayer de comment est-ce qu'on abaisse techniquement et pratiquement la marge d'entrée pour faciliter l'adoption d'outils numériques éthiques.
Après, ça reste quand même un choix, parce que comme tu disais, oui, on était loin de devenir un nouveau Google, mais voilà, vous vouliez pas grossir plus, mais on était effectivement loin de devenir un nouveau Google, mais on avait quand même un choix, on aurait pu partir dans le truc. Il y a pas mal de gens qui attendaient ça de nous, en fait, qui était de continuer de grossir, de mettre par exemple une identification unique sur tous nos services pour qu'on ait un espèce de truc unifié comme Google peut avoir, et que pourquoi pas faire un peu payer des comptes, même pas cher, pour 2-3 euros pour que les gens puissent avoir leur truc éthique et tout, et ça aurait peut-être très bien marché, hein, par ailleurs. Mais en fait, nous, c'était vraiment une volonté de se dire, ouais, mais c'est pas le modèle que nous, on veut, en fait. Nous, notre modèle, c'est pas... On veut pas faire des champions, des licornes, je sais pas, c'est pas ce quoi les termes qu'on utilise dans la Startup Nation, là, mais française, voilà, et cocorico, youpi, on a réussi, même si c'est éthique. C'est-à-dire que nous, on défend le modèle des petits trucs décentralisés, quoi, entre guillemets, si tu veux, on comparait souvent les chatons, donc les hébergeurs alternatifs comme Framasoft avait commencé à faire, comme les AMAP du numérique. C'est-à-dire par opposition au gros supermarché. Mais c'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire que tu peux te dire, je vais faire une ligne de supermarché éthique qui va bien payer ces gens. Il y en a qui font, hein, qui essaient de faire des trucs comme ça. Je vais pas citer de marque. Mais non, nous, notre modèle, c'était plutôt le modèle AMAP, quoi. Donc c'est aussi un choix. Et de fait, entre Dégoulisons d'ailleurs et Convivial et Coincoin, parce que c'est trop long. Il y a eu Contributopia aussi, qui était un peu une phase de transition. Après, il y a eu le Covid. On va pas faire tout l'historique, mais voilà.
Donc, Coincoin, effectivement, et Contributopia. Ouais. Je repense, en fait, au superbe dessin qu'il y avait à l'époque. Enfin, bref, avançons. Donc, campagne Coincoin, lancée il y a un an. Est-ce que, déjà, avant qu'on rentre peut-être dans les exemples précis, faire un bilan général une année après, qu'est-ce que vous en avez tiré comme...
Vraiment, d'une part, que le besoin est juste, quoi. Enfin, que vraiment, en tout cas, nous, les retours qu'on a eus, c'est qu'il y avait vraiment, qu'il y a clairement besoin de s'adresser encore plus aux petits collectifs, qu'il y a tellement de petits collectifs qui disent, mais nous, on est chaud, on est prêt, on en veut des outils, on veut se sortir de Google et de Microsoft 365 et de tout ça, mais juste, on sait pas comment, on a besoin de chaleur humaine, on a besoin d'aide, on a besoin d'outils, on a besoin de choses comme ça. Donc déjà, ça, c'est quand même hyper rassurant, que ça a été vraiment compris comme le numérique qui sert d'action politique, en fait, politique, parce qu'on essaie d'améliorer et de changer la façon dont la société fonctionne à notre tout petit niveau, mais on essaie. Donc voilà. Et puis que c'est du boulot, mais qu'on avance. Mine de rien, Framaspace par exemple, c'est un des services donc où on dit tiens, vous avez un petit collectif de moins de 50 membres, on peut vous offrir un espace 40 gigas en ligne de cloud avec de l'agenda, de la prise de notes collaborative, de l'espace de stockage, etc. Il y a déjà plus de 700 espaces, on doit même peut-être être 800, là on était à 750 là, au moins, on doit peut-être être 800, ça marche, il y a un forum qui commence à se mettre en place, il y a énormément de besoins de comment est-ce qu'on fait ci, j'aimerais bien un tutoriel pour ça, etc. Et on voit bien que le besoin est là, que ça commence à marcher, que là il va falloir continuer à avancer pour accompagner et offrir encore plus d'outils et passer à la vitesse supérieure.
Parfait. Eh bien, je vous propose peut-être de faire une pause musicale avant de rentrer dans les détails et montrer qu'effectivement, clairement, quand on lit ce bilan, on voit que ça a beaucoup avancé en un an. On a du mal à se dire que tiens, ça ne fait que un an que tout ceci a déjà été fait. Bref, donc une pause musicale, je vous propose d'écouter On reviendra par Chicken Skull. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune.
Nous venons d'écouter On reviendra par Chicken Skull, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY. Alors nous allons poursuivre notre discussion, je suis Étienne Gonu de l'April et nous échangeons avec J et Pouyou de Framasoft et avec eux nous discutons de leur bilan et des perspectives un an après le début de leur campagne Collectivisons Internet, Convivialisons Internet ou Coin Coin pour faire court. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm ou ton chat. Dans la première partie, avant la pause, nous avons, vous avez présenté la campagne Coin Coin, tiré un premier bilan général. Je pense que ça peut être intéressant de commencer à regarder plus précisément dans les différentes outils que vous avez développés ou projets que vous avez menés pour participer à cette convivialisation d'Internet. Et un de vos projets phares que vous conduisez depuis 6 ans est Peertube.
Ouais.
Alors, c'est quoi Peertube ?
Alors, Peertube, attention, ceci est un logiciel, d'accord ? Et un logiciel qu'en général, des gens un peu spécialisés vont installer sur un serveur. Et ça permet de faire quoi ? Ça permet de faire une plateforme à la YouTube. Mais où votre place à vous, si c'est votre Peertube, votre place à vous, c'est que vous êtes Google. Vous avez les pouvoirs de Google sur votre petit bout de YouTube. C'est-à-dire que vous pouvez décider de créer BlueTube et de dire, voilà, la condition, c'est que seules les vidéos qui seront acceptées seront teintées en bleu. Voilà, vous avez le droit, par exemple. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de dire, OK, comment est-ce qu'on peut aider à émanciper les vidéastes sur YouTube et les streamers sur Twitch? Comment est-ce qu'il y en a parmi elles et eux qui ont besoin ou envie de s'émanciper, certains cas de figure? Je parle pas forcément des plus connus, évidemment, mais voilà. Et du coup, comment est-ce qu'on peut les aider en abaissant, encore une fois, la marche pour rentrer, en ouvrant plus grand la porte d'entrée? L'idée, ça a été de dire, en fait, il faut sortir de ce modèle avec une plateforme géante, avec une seule porte d'entrée. Parce que si tu veux faire ça, faut avoir la thune de Google et puis les serveurs d'Amazon, ça va pas marcher. Et donc, on va reprendre les bons vieux principes d'Internet, hein, le réseau décentralisé. Voilà. Et donc, plutôt que créer un géant, on va créer toute une fédération de petits qui vont pouvoir installer Peertube sur leur serveur. Et plutôt que d'être chacun dans son coin avec sa plateforme vidéo, on peut les faire communiquer ensemble et avoir ensemble un plus grand catalogue de vidéos. Donc, déjà, ça permet de répartir tout ça. Et en plus, au niveau technique, histoire de pas avoir besoin des tuyaux là, de la fibre, de la bande passante de Google et compagnie, quand les gens regarderont une vidéo, s'il y a plein de personnes qui viennent la regarder en même temps, ça va la diffuser normalement, mais aussi la diffuser entre spectateurs et spectatrices simultanés. Et donc ça, grâce à la fois à ce pair à pair et au fait d'avoir un logiciel libre et au fait d'avoir de la fédération, on a 3 choix techniques qui, en fait, sont des choix politiques qui permettent de dire on va démocratiser les moyens de diffusion de la vidéo. Et ça, c'est le principe qu'il y a derrière Peertube.
Et d'ailleurs, si les personnes qui suivent Libre à vous ou du moins ont entendu notre émission sur Mastodon, et je pense que ce que tu as décrit leur a sans doute paru familier, est-ce que c'est en fait ce même principe? Donc Mastodon, je précise, qui est un logiciel, enfin une plateforme de microblogging basée sur un logiciel libre et sur un système décentralisé avec chacun pouvant avoir son instance et puis on rentre par différentes portes.
C'est ça. C'est d'ailleurs souvent la difficulté de dire par quelle porte je vais trouver. Alors si au fur et à mesure de l'émission on parle d'instance, c'est en fait un serveur sur lequel un Peertube ou un Mastodon ou d'autres logiciels fédérés ont été installés.
Voilà, chacun peut l'installer, mais ça demande des compétences techniques.
Bien
donc,
sûr.
Si on n'a pas ces compétences techniques, on peut aller chercher des personnes qui l'ont, on peut se renseigner, trouver une instance, et en fonction de leur manière de faire, de ce qu'ils proposent, s'ils mettent un filtre bleu que peut-être on n'a pas envie, on va aller voir sur une autre instance, etc. Moi, il y a quelque chose que je trouve intéressant sur la manière dont... Parce qu'il y a donc une page dédié, voilà, qui précise ce que votre bilan et vos perspectives sur Peertube. Vous distinguez la notion de concurrence ou de rivalité avec celle d'alternative. Vous voulez pas être rivaux de YouTube, vous voulez être une alternative. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est comment ça pose la question des usages. Il y a un usage réel qui est presque intrinsèque à ce que permet l'outil informatique et Internet, c'est le partage d'informations, là, sous forme vidéo. Et puis, en réalité, Google a quelque part préempté cet usage et puis a imposé sa vision du truc, transformant de fait dans son interprétation technique et politique. Il y a des enjeux politiques évidemment sous-jacents. Et la même chose peut être dit du streaming que permet Peertube, je pense qu'on pourrait y revenir, donc de la diffusion en direct. Et là, c'est Twitch qui est un peu la référence privatrice.
Twitch d'Amazon.
Twitch, voilà, qui appartient à Amazon, donc on retombe sur les GAFAM. Et donc, ils ont imposé un truc, pour tout le monde, voilà comment doit fonctionner l'accès à la vidéo. Comment on lutte contre ça?
Lentement, mais sûrement. Et en fait, ça a été dès le départ, dès la première année où on a annoncé PeerTube. À l'époque, je sais pas si tu te souviens, c'était la mode des killers. Hello est le nouveau Facebook killer, machin est le nouveau Twitter killer, etc. Et à chaque fois, t'avais une startup qui naissait, qui crevait dans les trois mois, et tout le monde perdait son temps sur ces merdes-là. Voilà. Et en fait, nous, dès le départ, on a dit, PeerTube n'est surtout pas le nouveau YouTube killer. Désolé, on est une asso de 1901 franchouillarde qui va mettre 50 000 balles sur la table pour essayer d'arriver à une V1 du logiciel. Donc, à aucun moment donné, vous allez comparer nos moyens, nos objectifs, nos machins avec Google. C'est juste, on va se calmer deux secondes. Et ça a été comme ça. Et dès le départ aussi, on a dit, en fait, on va commencer par s'adresser d'un public à un autre. Et en essayant d'agrandir le cercle. Au départ, on s'est adressé à un public très spécialisé parce que avant qu'il y ait des vidéastes qui mettent des vidéos sur des plateformes PeerTube, il fallait qu'il y ait des plateformes PeerTube. Et donc, des gens passionnés qui disent, OK, je vois l'intérêt de mettre ça sur mon serveur et d'essayer de filer les clés à deux, trois copains et de créer des comptes. Et donc, on va commencer à voir quels sont leurs besoins. Puis, au fur et à mesure, on a commencé à voir un peu plus les besoins des vidéastes. Et une des prochaines étapes, ce sera de voir les besoins du public. Tu vois, mais on essaie, vraiment, on a fait petit à petit. Juste pour donner, là aussi, une ordre d'idée de grandeur. Ça fait 6 ans qu'on développe PeerTube. Je vais exagérer le budget à mort en comptant le moindre trombone. Je pense qu'un budget raisonnable sur ces 6 ans, ce serait 500 000 €, mais disons 600 000, d'accord? Disons 600 000, j'ai fait les calculs, c'est 600 000 euros, c'est 22 millionièmes des revenus pub YouTube de l'an dernier. Donc, on est bien d'accord qu'on est face à des dragons et on est armé de cure-dents. C'est vous qui nous donnez les cure-dents et merci pour vos dons, on en a besoin, c'est cool et tout ça. Mais on n'est pas dans la même cour. Ceci étant dit, on arrive à faire des trucs. Là, on a réalisé, grâce aux médias qui ont couvert la V6 de PeerTube qui est sortie fin novembre, PeerTube, ça te permet, en tant que spectateurice, d'avoir tes notifications et tes abonnements sans traficage, sans avoir besoin de t'abonner, mettre la cloche, cracher par terre et sauter trois fois à pieds joints autour, tu vois. Ça te permet, en tant que vidéaste, de remplacer ta vidéo quand t'as fait une connerie, que tu veux refaire le montage et rectifier. Ça te permet de pouvoir protéger tes vidéos par mot de passe. C'est interdit sur YouTube, c'est payant chez Vimeo. Et toutes ces choses-là, on les a pas fait stratégiquement pour faire mieux que Google et compagnie. On les a fait parce qu'il y en avait besoin. Il y avait des vidéastes qui disaient, mais nous, on veut ça. Bah, du coup, on va le faire. Et ça, c'est assez intéressant de voir que finalement, on est vachement plus libre que Google et Amazon parce qu'on n'est pas enfermé dans leur modèle de capter les données, ce qu'on appelle la captologie, hein, c'est vraiment, il y a une page Wikipédia sur la captologie, je vous invite à la lire. On n'est pas enfermé dans le capitalisme de surveillance, on est vachement plus libre qu'eux parce qu'on n'est pas enfermé dans leur modèle économique.
Et ouais, moi, ça, c'est un truc qui m'a toujours frappé. D'ailleurs, j'avais fait une chronique là-dessus l'année dernière sur le fait que le logiciel libre était facile. C'est le côté, en fait, les gens, et puis nous aussi, on a tendance à voir tous les trucs que Google et compagnie font bien et à se dire, tiens, ça manque. Par contre, on voit pas tous les trucs effectivement qui font super mal et qui en fait nous emmerdent. Et notamment, ouais, bah tous les trucs que YouTube et compagnie vont pas faire parce que ça va à l'encontre de leur modèle. La possibilité de mettre pause sur une vidéo, de ne pas mettre de lecture automatique, par exemple, tout ça. Moi, je me souviens, mais ça, je l'avais dit dans la chronique, je crois. Mais bon, c'est pas grave, je vais vous le dire. Mais quand j'avais commencé à me dire, tiens, je vais essayer de faire des dessins en live. Je me dis, je vais aller sur Twitch parce qu'à l'époque, il n'y avait que ça. Et puis finalement, je ne l'avais pas fait parce que PeerTube Live allait sortir 2 mois après. Je me suis dit, je vais attendre PeerTube Live. Et en fait, mais je me souviens, j'avais quand même été faire un tour sur Twitch et j'avais été dans l'interface pour essayer de commencer à faire un stream, enfin de commencer du coup à diffuser en direct. Mais c'est un bordel! Mais t'as des trucs partout, ça clignote de tous les côtés. Mais parce qu'en fait, il y a la monétisation Amazon, les machins, les comment tu fais pour avoir des abonnements, des trucs. Et donc, c'est une usine à gaz qui est incompréhensible. Donc, les gens sont capables d'aller à travers cette difficulté parce que, en fait, cette difficulté, elle est rendue naturelle par les GAFAM. Quand PeerTube Live est sorti, j'ai voulu aller au direct. On m'a donné une clé, je l'ai mise dans mon navigateur, dans mon logiciel de direct. Et c'est tout, ça s'est lancé. Je me suis dit, ouais, et après, on va me dire que le logiciel libre, c'est compliqué, quoi.
Et on revient sur la question des imaginaires, en fait.
Ah, c'est ça. Mm-hmm. En fait, ils ont complètement naturalisé la complexité et tous les trucs qui te piquent, voilà, que ce soit même la pub, on pourrait dire, les nombreux de pubs que tu tapes, c'est naturalisé. Et toi, on te dit oui, alors tu vas regarder des vidéos, alors ça va pas toujours être la même adresse, on fait oh là là, c'est compliqué.
C'est vraiment un truc, ouais, de se rendre compte, alors là, avec nous, les retours qu'on reçoit autour de PeerTube, de se rendre compte de comment est-ce que l'imaginaire a été manipulé, colonisé et dicté par les GAFAM. Typiquement, la plupart des gens nous disent « Ah, mais si vous voulez que ça marche, votre truc, il va falloir mettre de la pub pour payer les YouTubers, enfin les PeerTubers. » Alors, désolé, j'ai été YouTuber de 2014 à 2016, j'avais 42 000 abonnés, et moi, quand j'ai commencé, le 1 euro pour 1000 vues se cassait la gueule. La pub, depuis plus de 10 ans, ne paye pas les vidéastes, à part une poignée de quelques élus Happy Few. Mais la plupart ne se payent pas comme ça, et ça n'est clairement pas le modèle publicitaire. Ça va être le placement de produits, ça va être le marketing, la vidéo comme produit d'appel, ou le don. Grosso merdo, c'est ça les modèles économiques. Mais donc du coup, rien que ça, et or, il était inimaginable pour les personnes de se dire, mais on ne peut pas avoir un logiciel de diffusion de vidéos ou de direct sans avoir une monétisation à coller. Il faut absolument que les deux soient mêlés ensemble, parce que dès le départ, dans nos esprits, les deux ont été mêlés ensemble. Il n'est pas possible d'avoir de penser autrement qu'en termes de plateforme. On parle de plateforme PeerTube, mais il n'y a pas une plateforme PeerTube, il y en a mille. Il y a mille instances aujourd'hui, au moins de celles que l'on connaît, parce qu'il y a bien des gens qui les font et qui ne nous le disent pas, et ils ont bien raison. Donc voilà, mais on ne peut pas penser autrement, parce qu'aujourd'hui, le seul modèle imaginaire que nous ayons, et c'est vraiment pas un reproche, hein, c'est le modèle de YouTube, c'est le modèle de Twitch. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour redéconstruire ces imaginaires en te disant, mais en fait, tu sais quoi, on peut être vachement plus libre que ça, et on peut faire autrement.
Voilà. Pour synthétiser, alors on va... Pour le point de vue vidéaste, pour les personnes, ouais. Les youtubeurs, les youtubeuses, en fait, ce que je comprends bien, c'est de ce que tu dis, le fait de la publicité, donc une partie de la rémunération sur YouTube est en fait assez minoritaire pour les personnes qui vivent de leur création et du contenu qu'ils vont diffuser sur YouTube. Mm-hmm. Le reste des manières de monétiser que tu as décrit, par exemple, notamment les pages de dons, sont parfaitement compatibles avec PeerTube. Donc là, quelqu'un veut diffuser, parce que je parle d'instance, mais du coup, on met sa vidéo en ligne sur une instance PeerTube, tout le monde peut y accéder de n'importe quelle autre instance. On n'est pas obligé, ça marche un peu comme YouTube de ce point de vue-là. On est d'accord.
Tout à fait. On peut y accéder. Alors, depuis une autre instance, il faut juste qu'elle soit connectée entre elles, mais bon, ça se fait assez rapidement. Mais oui, oui.
Je pense que le souci pour une vidéaste, je me permets juste de préciser, le souci pour quelqu'un qui va mettre en ligne, quelle que soit la plateforme, c'est d'être aussi accessible que possible et de la manière la plus simple possible.
Tout à fait. Et c'est ça le gros avantage, c'est le fait de se dire finalement, l'espace disque, parce qu'une vidéo, c'est du disque dur, hein, c'est un fichier sur un disque dur, ça prend de la place. Et l'espace disque, plutôt que d'avoir une méga entreprise qui a besoin de tonnes de thunes pour héberger les vidéos du monde entier, eh ben on va le partager entre plein. Et c'est pas parce que les vidéos elles vont rester sur ton disque dur de ton serveur, ton instance PeerTube à toi, qu'elles peuvent pas être vues depuis mon serveur à moi, depuis mon instance à moi. Il suffit juste de partager le catalogue et qu'à un moment donné, on aille chercher la vidéo sur ton serveur.
Ok. Maintenant, si on bascule du côté des usages des personnes qui veulent regarder des vidéos, de la même manière, j'imagine que ça se fait de manière assez transparente. Je me connecte, parce que du coup, on peut aller se connecter. Il y a différentes URL et Dijon en a parlé. Il y a différentes adresses possibles. En fait, comme pour Mastodon, il y a différentes instances sur lesquelles on peut s'inscrire. Mais à partir du moment où j'arrive sur le site, si je tape dans le mode de recherche, je peux retrouver des vidéos à partir du moment où les instances sont interconnectées, des vidéos qui ont été diffusées ailleurs.
Tout à fait, il y a un moteur de recherche fédéré, tu peux même aller juste sur search.joinpeertube.org ou Sepia Search. Sepia, c'est la petite sèche, tu vois, le poulpe mascotte de PeerTube. Sepiasearch.org, et c'est un moteur de recherche de contenu sur PeerTube, donc tu vas y trouver des vidéos, des chaînes, des playlists.
Entendu. Puisqu'on parle de fonctionnalité, alors vous êtes déjà cité, déjà on peut diffuser en ligne avec PeerTube, faire du streaming live, ça c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités à venir? Je pense notamment, alors il me semble qu'elle est à venir et pas qu'elle est déjà en place, mais tu vas me le préciser, c'est est-ce qu'on peut s'en servir sur mobile? Est-ce qu'il y a une application
quand je te disais, tu vois, on va commencer à s'intéresser encore plus aux besoins du public qui veut voir. Bah là, voilà, l'application mobile, c'est le gros morceau de l'année prochaine. Alors, il y a plein de choses sur PeerTube aussi, mais l'application mobile, oui, c'est, on se rend compte qu'aujourd'hui, la plupart des visualisations de vidéos se font sur mobile. Et donc, c'est même pour ça qu'on a embauché un deuxième développeur. On a doublé notre équipe de dev. Tu parles, on passe de 1 à 2, mais ouais, pour nous, c'est énorme, hein, parce qu'encore une fois, Microsoft ne souhaite pas croître démesurément et souhaite maîtriser sa croissance. Mais voilà, on a embauché un deuxième développeur et une de ses missions va être justement de travailler sur cette application. Une application qui, dans sa première version prévue pour la fin de l'année prochaine, 2024, servira vraiment à rechercher des vidéos, à les consulter, à les regarder, à se connecter pour avoir ses abonnements, ses playlists, ses vidéos à regarder, etc. Pouvoir liker et commenter. Grosso merdo. Mais l'idée vraiment, c'est de se dire, tiens, ce serait bien qu'à un moment donné, s'il y a des gens qui cherchent PeerTube sur le Play Store, ou encore mieux, sur F-Droid, l'alternative libre au Play Store de Google, sur le store d'Apple, iOS. Alors là, on veut le faire, on va le faire, mais modulo les caprices d'Apple qui refusent plein d'applications de leur store, notamment dans le fait divers, parce qu'elles ne comprennent pas trop et ne maîtrisent pas. On va voir si ça passe ou pas. On va faire.
Et puis, il faut casquer 100 balles par an quand même pour être chez Apple, oui, tranquillement. Bah oui, voilà.
Oui. Ok.
Donc, pour ça, il faut donner des sous à Framasoft pour qu'ils puissent payer Apple.
C'était peut-être pas le meilleur argument au monde, mais bon, je le prends quand même. Et enfin, une des options aussi, alors on espère pour fin 2024, mais peut-être un peu plus tard, c'est aussi de se dire, mais aussi Android TV, parce qu'aujourd'hui, va-t'en trouver une TV qui n'est pas smart. Voilà. Et du coup, le fait de pouvoir aussi regarder des vidéos PeerTube sur cette TV de manière facilitée et pratique, ça semble important.
Et en termes de fonctionnalités, qui du coup, ça rejoint ce que disait Edgy sur le fait qu'en fait, il y a des choses que permettent le libre que les systèmes privateurs ne permettent pas. Mm-hmm. Tu as parlé de faits divers, alors peut-être rappeler en fait, tu l'as déjà décrit quand tu parlais du système fédéré, mais.
Tout à fait.
Voilà. Donc, il y a le fait divers qui est basé sur un protocole et du coup, on parlait de Mastodon. Je pense qu'il y a des ponts qui vont pouvoir se faire entre des outils que ne permettent pas parce que on peut pas poster des trucs YouTube directement sur. Enfin, que si, mais bon. Pas de manière aussi simple et aussi maîtrisée. Voilà. Donc, ça, c'est vrai que c'est une force aussi, je pense,
tout
que ce genre de système.
Il y a une très très grande résilience au niveau de donc fait divers, un federated universe, univers fédéré. Voilà, et comme on parle le même langage, mais d'ores et déjà, tu peux pouetter sous une vidéo PeerTube, répondre à un pouet d'une vidéo PeerTube, et ça va en fait faire des commentaires. Donc imagine que tu commentes une vidéo YouTube avec ton compte Twitter. Aujourd'hui, c'est inimaginable, tout ça est fermé entre eux. Bah, nous, on peut se l'autoriser parce qu'on n'a pas besoin de fermer. Tout bêtement, donc voilà, c'est open, c'est libre et c'est
ça pratique. C'est un exemple finalement très bas entre guillemets ce que tu proposes et en fait c'est la seule limite là, c'est l'imagination humaine de ce que permettent les interactions entre de différents outils. L'imagination
et d'arriver à mettre les développeurs autour de la table alors que ces développeurs sont les nôtres, les premiers sont déjà submergés de travail avec une feuille de route hyper chargée.
C'est vrai qu'il y a une question de délibération aussi, c'est-à-dire que Mastodon par exemple qui est une sorte d'alternative à Twitter même si c'est très réducteur, par défaut tes messages font au maximum 500 caractères je crois. Mais ça se fédère avec, par exemple, Pléroma ou Pléroma, Pléroma, qui fait le même genre de truc, mais avec une limite beaucoup plus haute. Bah, du coup, quand t'es sur Mastodon et que tu reçois un message de cette autre version, qu'est-ce que tu fais? Genre, est-ce que t'affiches tous les caractères, mais du coup, les gens sentent bien que c'est pas exactement la même chose que tu vois que le truc habituel? Est-ce que tu coupes à 500 avec un petit bouton pour faire « Ah bah, il y a plus ?» Et tout ça, c'est des trucs qui sont complexes, et plus tu vas mélanger d'applications ensemble, plus tu vas avoir des questions de ce genre, quoi. Donc, c'est
Ce sont compliqué. Des questions, du coup, politiques, mais des positions politiques intéressantes. Comment on décide? Qui décide?
Et de fait, c'est des questions politiques où tu es partie prenante. Alors que quand c'est Google, quand c'est Facebook qui choisit comment il va intégrer les vidéos YouTube, il fait comme il veut et toi, t'as aucun truc à dire. Mmh. Quand t'es sur une instance où ça peut être quelqu'un que tu connais qui la gère, ou bah si c'est OK, c'est pas forcément quelqu'un que tu connais, mais une asso, bah, c'est des gens que tu peux atteindre, quoi. Essaye d'appeler le SAV de Google, quoi.
Bon. Ce matin, on était en live sur PeerTube avec un journaliste, David Dufresne, et on est passé de son Twitch à son PeerTube, et il y a eu des bugs. En 5 minutes, il a eu au téléphone son hébergeur, il a eu au téléphone et son hébergeur qui était en contact avec le développeur de PeerTube Chocoboz, donc maintenant un des deux développeurs, puisqu'il y a Wicklow qui nous a rejoint, et on a réglé ça, quoi. Tu vois, va-t'en trouver ce service client chez Google, quoi. C'est dingue.
Et puisqu'on parle de communauté, de développement, je pense que le développement est ouvert, combien il y a de contributions? Est-ce que peut-être des personnes qui nous écoutent, qui ont peut-être des compétences qu'elles souhaiteraient partager sur PeerTube, voilà, comment?
Alors, il y a beaucoup, beaucoup de contributeurs. J'ai plus le chiffre, c'est à l'article devant les yeux, tu as peut-être le chiffre sur Git, mais voilà, mais c'est des centaines de contributeurs. Le truc, par contre, c'est que PeerTube, aujourd'hui, est devenu un très, très gros logiciel. On est sur 275 000 lignes de code. tout le monde n'est pas prêt à se les fader et je l'entends, il n'y a pas de souci. Et donc, une des premières étapes qu'on va dire si tu veux contribuer en code, c'est essaye plutôt de faire un plugin. Un plugin, c'est un petit bout de logiciel qui va s'attacher au nôtre. Et s'il y a besoin de trucs pour l'accrocher et donc pour pouvoir faire en sorte que avoir des interactions qui aujourd'hui ne sont pas possibles, bah, juste tu les demandes et on te les ouvre. Il y a vraiment, je dis accrocher parce que ça s'appelle des hooks en anglais, des crochets.
La traduction de plugin en français, c'est greffon, je crois.
Ouais. Ok, d'accord.
Alors, je sais pas si c'est québécois ou si c'est l'Académie française. Je pense que c'est québécois parce qu'en général, l'Académie française, ils disent nimp. Donc, comme greffon, c'est pas mal, je pense que c'est québécois. Ouais.
Alors, les chiffres, 400 contributeurs, contributrices, 4300 problèmes fermés en 6 ans et 500 toujours ouverts, 12400 contributions intégrées en amont.
Voilà.
Effectivement, on est sur du volume conséquent.
Très gros volume.
Dernier mot sur Peertube, vous voulez qu'on...
Dernier mot, c'est qu'en plus de l'application, il y a plein d'autres choses qui sont prévues, dont notamment travailler des nouveaux outils de modération, travailler l'accessibilité. Alors quand on parle d'accessibilité logicielle, c'est vraiment de faire en sorte que le logiciel soit utilisable par des personnes en situation de handicap de manière fluide. On a fait tout ce qu'on a pu dans la dernière version selon notre niveau de connaissance. Là, on va demander à des pros de nous faire un audit, de nous dire tout ce qu'on fait pas bien et qu'il faut changer, et on va le changer. Voilà, et aussi une énorme refonte de ce qu'on appelle l'UI et l'UX, donc en fait de l'interface de Peertube, qui n'avait pas forcément de designer et designeuse dès le départ pour travailler avec. Et là, tout va être sur la table. J'ai un exemple tout bête. Aujourd'hui, quand tu envoies une vidéo sur Peertube, pour mettre la vignette de ta vidéo, il faut aller dans les paramètres avancés. Ça n'a aucune espèce de logique, c'est juste que lorsqu'on l'a mis, rajouté les vignettes des vidéos, bah, on a mis un onglet paramètres avancés. Voilà. Ça n'est pas du tout intuitif et on va revoir tout ça. Et donc, l'idée vraiment, maintenant, c'est que Peertube est un succès fou. La Commission européenne a Peertube, le ministère de l'Éducation nationale, l'Université des Philippines, je peux vous en citer plein. Il y a un vrai grand succès, c'est vraiment en train d'être adopté. Enfin, c'est un succès naissant, mais c'est vraiment en train d'être adopté. Et l'idée, c'est que là, il faut vraiment qu'on travaille à faciliter l'utilisation, l'adoption, à ce que ça devienne beaucoup plus logique, intuitif, pratique et agréable. Voilà. Et donc là, bah, c'est ce qui nous attend pour 2024.
Et d'ailleurs, j'imagine que si les personnes utilisent, qu'elles se soient en visionnage ou pour diffuser Peertube, on rappelle, c'est logiciel libre.
Oui.
On peut remonter des bugs, on peut remonter des souhaits, ça sert à ça. Fin...
Et on a même, alors c'est en anglais parce que le projet est en, la langue primaire du projet est en anglais, mais on a même un site. Si vous allez sur joinpeertube.org, c'est la porte d'entrée de tout Peertube. Et il y a un site qui s'appelle ideas.joinpeertube.org. Ideas, donc idée en anglais. Et où vous pouvez suggérer des fonctionnalités. La plupart des fonctionnalités de la version 6 qu'on vient de sortir et de la version future 7 en 2024 sont tirés de là, vous pouvez voter, vous pouvez commenter, et c'est pas un truc où il y a besoin d'être développeur pour comprendre comment le site y marche.
Ok. Bon, là, je pense qu'on a beaucoup parlé de Peertube. Alors, c'est pas un sujet à Peertube, mais je trouve que c'est déjà un super beau projet. Bravo. Parce
Merci.
Que, enfin, il fallait, c'était vous attaquer une montagne quand même.
Ouais. Hein,
et c'est très beau de montrer ce qu'on peut réaliser, en fait. Enfin, c'est un bel exemple. Enfin, c'est du jukepop, hein, de l'éducation populaire. Je pense qu'on est un bel exemple. Si on est un bel exemple.
La plupart de ces bravos vont à Chocobos qui a bossé quelques années dessus.
Salut Chocobos, voilà, vraiment. Et en 6 ans, c'est en fait très peu par rapport à ce qui a été accompli. Donc, on souhaite vraiment belle continuation à ce projet. Mais il y a d'autres projets conduits. En fait, t'as déjà parler de Framaspace.
Ouais.
Tu as déjà parlé d'émancipation, on pourra en reparler, mais j'aimerais beaucoup vous entendre sur Mobilisons, qui je trouve est un très beau projet. Je pense qu'en gros, c'est l'alternative d'un service Facebook,
ouais,
qui est la création et le partage d'événements. Hein. Je suis très caricatural et tu vas pouvoir préciser.
C'est plutôt comment dire, tu vois, enfin voilà, on voyait les marches sur le climat à l'époque s'organiser sur des événements Facebook et on était là, mais merde, on a loupé quelque chose, nous, communauté du libre, on a loupé quelque chose. Parce que c'est un problème, c'est une bombe démocratique, hein, c'est Olivier Hertzschild qui dit ça sur son blog Affordance, mais quelles alternatives on a à leur proposer? Et donc bah là, du coup, avec Mobilisons, il y a 4 ans, on a demandé à des designers, d'aller voir des militantes et des militants, que ce soit la grosse asso écolo ou la petite asso queer, et de dire, mais en fait, vous avez besoin de quoi pour vos événements, pour vos groupes et tout ça. Et puis on a essayé de le faire et c'est ça que fait Mobilisons. Et Mobilisons, en fait, c'est Facebook, groupe et événements sans le côté social, sans le côté c'est la foire à l'ego, je vais être liké et c'est moi qu'on va regarder, tu vois. Et c'est assez intéressant, c'était ce qui correspondait à leurs besoins. Donc voilà, là, on est heureuses et heureux parce que 4 ans, et on est arrivé au bout de la vision qu'on avait proposée en 2020. Et donc là, nous, on va arrêter le développement actif sur Mobilizon, mais parce que c'est pour nous, c'est fait, c'est prêt. Et ce qui est encore plus formidable, c'est qu'il y a déjà une autre équipe qui est prête à prendre le relais et à poursuivre le développement, qui a trouvé du financement et tout, c'est trop cool.
Super, belle histoire encore.
Ah ouais, ouais, ouais.
Et à nouveau, ça part finalement d'un usage nécessaire, juste comment diffuser une information pour se retrouver à tel endroit, mener telle action,
s'organiser ensemble.
S'organiser ensemble, tout simplement. Ouais. Ok, super. Il y a des, ça fonctionne comment? Il y a des instances, pareil, c'est...
Exactement comme ce qu'on vient de parler avec PeerTube et Mastodon, c'est fédéré. Fédéré avec le même protocole. Donc le même, on parle la même langue. Pour info, le protocole s'appelle ActivityPub. Vous pourrez chercher ça tranquillement sur Wikipédia. Et donc voilà, c'est la même chose. Et typiquement là, par contre, si vous voulez avoir un hébergement, nous la seule, on en propose un où vous pouvez vous créer un compte. La seule condition qu'on a, c'est que c'est en français, parce que si c'est nous qu'on fait la modération, on va la faire dans la langue qu'on connaît. Voilà. Mais vous allez sur Mobilizon avec un z.fr et vous pouvez vous ouvrir un compte pour publier vos événements, pour vous organiser dans votre groupe, avoir un outil d'organisation, etc. Encore une fois, vraiment, ça permettra de faire ça. Ça ne permettra pas de promouvoir votre événement, etc. L'idée, c'est justement d'utiliser les réseaux propriétaires où les gens sont enfermés comme espace de relais vers des espaces qui vous appartiennent ou sur lesquels, en tout cas, vous avez plus de pouvoir.
Et alors c'est une porte qu'on va avoir très peu de temps à... Je vais quand même envie de l'ouvrir, mais on va avoir peu de temps pour l'explorer. Okay. Qui est celle, tu avais parlé de modération.
Ouais.
On sait que c'est un enjeu, j'imagine que ça prend beaucoup de temps et à Framasoft, parce que sur Mobilizon, vous avez une instance Mastodon, et là on imagine bien les enjeux de modération. Comment vous abordez cette question? Ce qui est... Elle est très complexe. D'ailleurs, on avait fait une émission et quelqu'un de Framasoft était intervenu. Je ne sais plus si elle l'avait fait sous anonymat, donc je ne vais pas, pas la citer. Mais en tout cas, voilà, c'est une question qui me paraît importante. Et comment vous la réfléchissez?
Régulièrement, en tout cas, avec beaucoup de. En fait, l'idée, c'est de remettre l'humain au centre. Si tu veux. C'est-à-dire que nous, nos valeurs sont claires. Ce qui nous va ou ce qui nous va pas dans la modération, c'est plutôt clair. D'accord? Après, ça va être comment est-ce que on le met en place sans se cramer nous. Et donc, il y a des moments où, quand, par exemple, il y a une personne où c'est tendancieux, où on sait pas, etc. Enfin, on se dit, mais en fait, du coup, nous, là, ça nous demande trop de travail, trop de charges humaines. C'est pas possible. Et on va juste dire à la personne, coucou, c'est pas que on condamne votre comportement et tout ça. Mais là, pour nous, c'est trop de boulot. On n'est pas l'espace adapté pour vous, pour votre expression. Et il y a d'autres espaces adaptés pour votre expression. C'est peut-être mieux d'aller les trouver parce que ça va pas matcher. Ou aussi, typiquement, pour nous, c'est très, très clair que tout ce qui est infox et confusionnisme et tout ça, c'est non. Tu vois? Très bien. Mais à quel moment on parle de conspiration quand une nouvelle pandémie éclate et qu'on a 15 jours de recul? Il n'y a pas de science. T'as pas le temps d'avoir eu de la science là sur quelque chose de nouveau. Et du coup, comment on fait? Parce qu'on va pas faire le boulot des scientifiques à leur place. La science, ça prend du temps. Et le savoir, créer du savoir, ça prend du temps. Et on s'est dit, en fait, à un moment donné, juste utilisant le principe de précaution, s'il y a quelque chose qui potentiellement peut blesser des humaines et des humains, parce que donner des fausses informations sur une maladie, ça, c'est mortel, en fait. Donc l'enjeu, il n'est pas anodin. À un moment donné, on va plutôt agir dans le principe de précaution parce que on va pas créer du savoir alors qu'il y a des gens dont c'est le boulot qui vont le faire.
Mais je trouve intéressant ces manières. Vous n'êtes pas la police, vous n'êtes pas là à appliquer justement le droit. Vous parlez, c'est votre espace et vous gérez humblement comment vous souhaitez que les pressions soient partagées avec les difficultés que tu as pu, je pense,
c'est
évoquer.
C'est essentiel le mot hébergement là-dedans. Quand on parle des instances, quand on parle de plateforme, l'hébergement. Pensez à propriétaire et locataire. D'accord? Est-ce que vous faites confiance à Facebook pour être votre proprio? Le proprio de votre appart, qui va aller voir dans votre frigo ce que vous faites, qui va choisir la couleur des papiers peints et afficher des pubs. Est-ce que vous faites confiance à un petit hébergeur que vous pouvez appeler? Est-ce que vous voulez vous héberger vous-même et devenir propriétaire? C'est vachement plus chaud de devenir propriétaire, il y a des démarches et tout ça. Et en fait, c'est ça, là, la version numérique, c'est ça, mais on parle d'hébergement. Et dans l'hébergement, vous êtes chez vous. Si c'est votre serveur, vous êtes chez vous.
Et oui, moi je voulais juste ajouter au sujet de la modération à Framasoft. Je sais pas si la vidéo est disponible, mais il y a notre camarade Maiwan qui a fait une conférence là-dessus au Capitole du Libre cette année, si je dis pas de bêtises.
Tout à fait.
Je l'ai pas vu, mais connaissant Maiwan, ça doit être très très bien. Donc je vous invite à aller la voir si la vidéo est disponible, et sinon à voir la prochaine fois que Maiwan fera cette conférence peut-être.
Je pense que Capitole du Libre capte en général quand même les conférences.
C'est ça,
si c'est pas en ligne, ça le sera bientôt. Il nous reste 5 minutes. Mm-hmm. J'aimerais quand même qu'on prenne le temps, et c'était d'ailleurs, je crois, ton souhait, ouais, qu'on parle et, bah, de la campagne de dons.
Oui.
Alors, est-ce que Framasoft va mourir demain?
Mais non.
Je ne pense pas.
Non.
Voilà, alors on en est où? Est-ce que je crois qu'on peut vivre sur nos dons?
Alors écoute, j'ai pas regardé là il y a 5 minutes et tout ça, mais je pense qu'on doit être à peu près à 50% de l'objectif qu'on a affiché de 200 000 euros sur soutenir framasoft.org, objectif jusqu'au 31 décembre et qui nous permettra d'avoir notre budget de fonctionnement 2024. Ce dont on se rend compte, ce qui est assez intéressant, c'est que autant l'année dernière, on a vraiment à un moment donné serré les fesses, parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière, fin d'année, on était en pleine guerre en Ukraine, crise énergétique, inflation, et on s'est dit, mais il y a plein de gens qui vont plus avoir une thune et tout ça. Et clairement, les dons sont arrivés vachement plus tard et se resserrent vraiment sur la toute fin de l'année. Ok. Et cette année où on est moins dans cet esprit mental-là, bah on a l'impression que quand même, on se prend un peu l'inflation dans les dents. Enfin, que nous, société, on se prend un peu l'inflation dans les dents. Et on voit que les mêmes appels aux dons, par exemple la newsletter qu'on envoie vers mi-décembre en disant « Coucou, le bilan est là et on a besoin de sous et c'est là et si vous pouvez, c'est cool. » Eh ben, a fait un score qui semble moins grand. On a l'impression que avec les mêmes, c'est plus positif. On a l'impression aussi qu'il y a plus d'associations qui font des appels aux dons aujourd'hui. Alors clairement, il n'y a pas de concurrence, hein, qu'on soit bien d'accord, ça ne marche pas comme ça. Ne réfléchissons pas aux capitalistes, s'il vous plaît. Mais que du coup, ça, c'est aussi le signe que l'inflation ayant fait son affaire, il y a plein de sources de revenus pour des associations et des collectifs et des créateurs et créatrices qui n'ont pas été présents et qui vont se tourner vers l'économie du don, ce qu'elles ne faisaient pas forcément avant. Donc voilà. Donc pour nous, ben voilà, on va croiser les doigts. On espère atteindre l'objectif. On n'est pas en danger là tout de suite. D'autant plus que on a eu la confirmation d'une bourse pour le développement pour Peertube. Donc voilà, ça permet que de modérer l'impact si on n'atteint pas l'objectif à la fin de l'année. Mais clairement, oui, on a besoin de dons. Et je rappelle vraiment que c'est les dons. Donc si j'enlève les bourses, comme on parle, etc. et tout ça, les dons, c'est de les gens, de vous et moi, c'est 75% du budget annuel de Framasoft. Des 11 salaires qu'on sort de tous les serveurs qui servent 1,5 million de personnes chaque mois, etc. Donc c'est vraiment, ça compte et ça change. Et du coup, on a besoin de vous, ou que vous en parliez, ou si vous le pouvez. Et c'est sur soutenir.framasoft.org.
Voilà, le lien sera en référence. Y allez-y même. Déjà, ne serait-ce que pour voir, comme on l'a évoqué, les magnifiques illustrations qui accompagnent cette campagne, justement.
Cliquez partout, vraiment, vous allez voir, c'est amusant.
Il nous reste, allez, vous avez encore 2 minutes. Est-ce qu'il y a vraiment un point sur lequel vous voulez insister, quelque chose
J'ai beaucoup parlé, J.
Ouais, mais moi, je pense qu'on a dit l'essentiel, de toute façon. Mm-hmm. Envoyer des sioux à l'arc.
Non, mais ouais, enfin... Moi, pour moi, il y a vraiment... oui, aussi, allez sur le Framablog, n'hésitez pas pour lire un peu plus en détail tout ça. Si vous voulez carrément lire tout en détail sur le Framablog, alors là, du coup, on était en août ou septembre 2022, on a carrément publié le rapport d'activité. Je dis plus en détail, et pourquoi est-ce qu'on va publier le rapport d'activité 2022 en 9 mois après ? C'est parce qu'il fait 98 pages. Alors, il est complet. Ah. Il y a de la transparence. Vous en voulez, il y en a. Mais il y a 98 pages. Voilà. Mais ouais, et sinon, si, moi, je veux faire un gros merci. Et enfin, on prend rarement le temps de dire c'est chouette ce qu'on a fait. Un gros merci à toutes les personnes de Framasoft, vraiment bénévoles comme salariés, pour tout le travail qui a été accompli cette année, et à toutes les personnes qui contribuent autour de nous, dans notre archipel de partenaires, des bénévoles, des contributeurs, etc. Enfin voilà, enfin, qu'on soit bien d'accord, si on arrive à combattre des dragons avec des cure-dents et que ça marche un peu, c'est grâce à ces humaines et ces humains qui mouille la chemise, et c'est super beau à voir. Moi, j'ai cette place privilégiée d'être témoin de ça et de le voir. Et voilà, vraiment un énorme merci et toute ma gratitude à ces personnes-là.
Bah, très belle parole de fin, je pense. Bah, merci encore, Pouyou. Donc, tu es co-directeur de Framasoft, tu es membre bénévole de cette très belle association. Et donc, bah, merci d'être intervenu aujourd'hui, d'avoir partagé ce bilan et ses perspectives avec nous.